Donc, et tout de suite après Monsieur Malamud, donc Madame Sylvia Dintino qui va nous parler de lire le Rig Veda avant Sayana. Donc, restons avec Sayana. Et je vais lui laisser tout de suite la parole.
Ça, je ne sais pas l'utiliser. Je peux utiliser les flèches? Oui, d'accord. Dans son essai pionnier, intitulé « Les maîtres de la philologie védique », Louis Renou esquissait le bilan d'un siècle d'études sur le Rig Veda depuis le début du XIXe siècle, à partir de l'essai « On de Vedas » par Thomas Colebrook en 1805 et l'école de Jean Burnouf, notamment le travail de Max Müller, et puis jusqu'au début du XXe siècle, avec les Védische Studien de Pichel et Gelder. C'était en 1928. Renou était un jeune professeur à Lyon. Il n'avait pas encore ouvert le chantier de ses études védiques et paninéennes qui constituent, lorsqu'on regarde de près ces 17 volumes, le dernier en vérité paru après sa mort, le prolongement idéal de ses réflexions d'alors. On constate avec étonnement que la Riksamhita, la collection d'hymnes à laquelle sont rattachés dans un rapport de filiation et complémentarité les différents textes de l'ensemble du Rig Veda, demeure l'objet unique de son essai. En parlant de la Riksamhita, Renou dit Rig Veda tout court. Et c'est ainsi, par synédoque, qu'on appelle aujourd'hui encore ce recueil. Son choix est à première vue surprenant. Si l'on considère que dans les mêmes années où l'on découvrait le Rig Veda, paraissaient les premières éditions d'autres textes majeurs du corpus védique et que la philologie indienne faisait ainsi des avancées extraordinaires. Renou s'en explique. On se limitera en principe aux travaux d'ensemble et spécialement à ceux qui intéressent l'interprétation littérale du Rig Veda. Ce texte est en effet le seul au sujet duquel il y a des divergences d'opinion fondamentales et la position que telle critique a prise à l'égard du reste de la littérature védique dépend strictement de l'interprétation qu'il propose pour le Rig Veda. Nous savons, Renou savait, qu'il n'existe pas de texte per se, isolé dans un espace étanche et un temps immémorial. C'est pourtant cet aspect du Veda, son caractère éternel et non humain, à part Aucheya, qui est inscrit dans la perception des hymnes et dans leur réception. Voici donc le mythe que le philologue a devant lui et qu'il s'attache à déconstruire ou à justifier, mais dont la persistance et le rayonnement ont franchi les siècles et deux millénaires. Pour ne pas parler de la difficulté qui réside dans le traitement des textes aussi éloignés dans le temps, jusque dans leur expression linguistique. Ce statut du texte a certainement conditionné les exégètes les plus anciens du Rig Veda, les compilateurs d'Anukramani, ou tables des matières, datées donc de la fin de l'époque védique, qui reconnaissent dans l'indication purement formelle, si j'ose dire, du Rishi, des maîtres et des Devata, ou des La Devata, pour chaque hymne, la clé de leur interprétation. À cette exégèse minimale, Shaunaka ajoute par sa Brihadevata, c'est-à-dire le grand répertoire des divinités, la mise en lumière des mythes et légendes associées aux divinités évoquées ou invoquées directement ou indirectement dans les hymnes, se risquant à une entreprise pleinement herméneutique. Parallèlement, Yaska, nous sommes à peu près au IVe siècle, IIIe siècle avant notre ère, réunissait dans son œuvre les mots difficiles du Rig Veda, c'est le Nigantu, et leur explication étymologique, le Nirukta, techniquement, en des sortes de nuages sémantiques répartis sur des sphères célestes, terrestres, rituelles, pour chaque mot ainsi isolé, ce qui perpétue à la fois le mythe du Rig Veda et en exalte, quelque part, la nature poétique. Un travail, celui sur l'interprétation étymologique, qu'Aïwind Kars a magnifiquement exploré. Les dernières décennies ont été marquées par des progrès importants dans la restitution d'une mémoire et d'un paysage reconnaissable, des réalia aussi pour les hymnes. Que l'on pense surtout aux travaux de Michael Witzel et aux progrès réalisés dans la recomposition de la géographie, l'histoire, la chronologie relative du Rig Veda, ainsi que traductions dernièrement parues, celles de Witzel et Toshifumi Goto, Rig Veda das Heilige Wissen, paru donc au moins les deux premiers volumes 2007 en 2013, donc un travail encore en cours, et celle de Jamison Bradenton, qui, donc deux traductions qui vont certainement marquer les études à venir. La traduction de Jamison et Bradenton, fruit d'un travail donc, paru en 2014, fruit d'un travail de 20 ans, porte le sous-titre « The Earliest Religious Poetry of India ». Les deux auteurs accordent pleinement aux hymnes le statut de poème sur les traces des philologues qui les ont précédés. Dans la longue introduction à cet ouvrage, ils se réfèrent notamment à Gellner et à Louis Renou. Ce sont ces mêmes travaux, à côté desquels il faut au moins mentionner toute l'œuvre de Gonda, qui ont éclairé également le Rig Veda de Tatiana Elizarenkova. Gellner et plus encore Louis Renou ont été les pionniers d'une nouvelle exégèse. Le lecteur contemporain est surtout orienté vers la poésie du texte, à la fois par ses traits formels et en tant qu'essence, fond même du Rig Veda. Car dans ce domaine, comme le disait Renou, la forme et le fond se touchent. Sans mentionner les études consacrées à des hymnes particuliers, et en dépit de tous les progrès des connaissances réalisées jusqu'ici, il faut toutefois admettre avec Louis Renou que le Rig Veda demeure ce noyau permanent et impénétrable du corpus védique, qu'il est encore ce livre fermé ou à peine entrouvert qui continue de faire débat. Par son texte à la fois fixé et pratiquement ne varietur, la récente découverte d'une recension Ashvalayana par Chobei, publiée en 2009, ajoute un argument en faveur d'une histoire des écoles rigvédiques, de même que l'étude des Rigveda Pratishakya par Bronckhorst a montré qu'il existe une préhistoire de la Rig Samhita, sans pour autant remettre en cause les textes reçus. Et en même temps, donc je disais, par ce texte qui est pratiquement ne varietur, et en même temps par la richesse formelle et stylistique de ces milliers de poèmes, à la limite de l'expérimentalisme, ce recueil demeure l'objet de lectures différentes, singulières. C'est pourquoi Renou parle d'empreinte de caractère, des tempéraments. Il dit que l'histoire de la philologie védique, entendons désormais avec lui la philologie du Rig Veda, porte la marque des diverses personnalités qui l'ont jalonnée, plus ou moins attentives aux données linguistiques, ou particulièrement sensible au symbolisme obscur des hymnes, à la matière culturelle dont ils s'inspirent et qui imprègne leur imaginaire et vocabulaire. Il ajoute aussi que la grande saison de la philologie védique est close, que c'est un champ pratiquement entièrement balisé. Qui veut comprendre aujourd'hui le progrès de ces études doit s'efforcer, au-delà de l'œuvre objective, de mesurer la part de l'homme, l'empreinte des tempéraments divers, mais également plein de foi. C'est pourquoi les moments du védisme ne sont pas tant marqués par des domaines nouveaux, ni même par des méthodes, que par des noms. Roth, Bergen, Oldenburg, quelques autres. On peut essayer de décrire les principales étapes à cette heure où la période héroïque est close et où la philologie future du Veda, quelle qu'elle soit, ira chercher dans celle du passé les leçons pour la prolonger, non des modèles pour la refaire. Notre connaissance du Rig Veda est profondément redevable du commentaire de Sayana, 14e siècle, donc ce n'est pas le cas naturellement uniquement pour le Rig Veda, tant en Inde qu'en Europe, surtout depuis l'édition de Max Müller. Donc, je le répète, à la moitié donc, du XIXe siècle, premier volume 1849, qui marque les débuts de ce que Renou appelle l'ère scientifique des études védiques. L'édition monumentale de Max Müller apportait enfin, introduit par des savantes préfaces, un texte du RIC qui consolidait la double garantie littérale du padapata et du commentaire, avec, même, cette élégance suprême d'un semblant de critique textuelle. Il était possible dès lors de se mesurer avec un document sûr qui semblait relever de toutes les méthodes de la philologie occidentale. Et, quelques pages plus loin, nul n'a contribué davantage à créer le miracle védique, consacré par une révélation surnaturelle, entretenu par d'exceptionnelles circonstances. Il a apporté au service de cette cause les tributs d'un art et d'une science égale. L'édition de Max Müller, qui présente les strophes des hymnes systématiquement accompagnées donc par le padapata, c'est-à-dire la version mot à mot, et les commentaires de Sayana, est vite devenue le Rig Veda de référence, le terminus aquo de la philologie védique. Ce faisant, Max Müller a consacré aussi l'autorité de Sayana, qui est entrée depuis dans la perception moderne de ce texte. Mais le Rig Veda n'est pas le premier livre du corpus védique dont Sayana et son école ont rédigé les commentaires, et le projet du scoliaste le plus prolifique de la tradition indienne, comme Galevitz l'a très bien montré, visait à la canonisation de l'ensemble du Veda. Ses nombreux commentaires ont largement contribué à la fixation du texte védique et à la persistance de son interprétation. Dans son Rig Bhashya, nous trouvons l'équivalent sanskrit des termes védiques obscurs, d'où les anachronismes qui lui ont été reprochés, et la mise en regard de l'usage védique et de l'usage contemporain. Sayana puise librement dans les matériaux les plus divers pour combler la distance, je signale, c'est presque 2000 ans, qui le sépare des anciens rishis, les poètes voyants à qui l'on attribue les hymnes. Il utilise donc les brahmanas, les aranyakas, les upanishads, tous les vedas et tous les savoirs de l'exégèse. Vyakarana, Nirukta, Brihadevada, Mimamsa, grammaire, étymologie, mythologie, herméneutique. D'obédience védantique, sa vision du Veda demeure toutefois ambiguë, peut-être parce qu'il ambitionne un modèle d'exégèse qui soit en même temps le compendium d'une tradition exégétique très ramifiée. Mais elle a les vertus du travail systématique et c'est une glose complète de l'ensemble du Rig Veda. Dans l'histoire de l'interprétation védique, il y a donc un avant Sayana et un après Sayana, longue saison épigonale qui se prolonge jusqu'au XXIe siècle. Telle est l'immense influence de son travail. Ainsi, lorsque Renou reparcourt les grandes étapes de l'exégèse moderne du Rig Veda, ce qui caractérise les diverses personnalités, les divers tempéraments des philologues, peut être ramené à leur rapport à Sayana. À propos de Friedrich August Rosen, il note que pour sa traduction latine du premier mandala seulement, donc paru en 1838, donc avant l'édition de Max Müller, il avait utilisé trois manuscrits, un pour la Samhita, un autre pour le Padapata et un troisième pour le commentaire de Sayana. Parmi les philologues qui, au contraire, ont fait trop confiance à Sayana, c'est-à-dire, je ne lirai pas quand même les quelques extraits, Langlois, Ludwig, Wilson, c'est la critique adressée à Wilson qui touche au fond du problème, c'est-à-dire la révérence à la tradition indienne. Mais quoi que Wilson en dise dans sa préface, son œuvre est bien moins une traduction du Rig Veda qu'une traduction de Sayana. Persuadé que Sayana était en état de comprendre le Rig Veda beaucoup mieux qu'un interprète européen, ce sont ses propres termes, il a suivi l'auteur hindou jusque dans ses pires contradictions. Bon, c'est une... Je m'excuse pour les coquilles. Allant jusqu'à substituer au terme imagé ou précis du texte l'équivalent propre ou générique que fournit la glose. Sa traduction montre la limite extrême que l'on pouvait atteindre en se tenant à la lettre de l'enseignement indigène. Un Veda inerte et inconsistant, c'est une critique très sévère, un vocabulaire dépouillé de ses valeurs et adapté à la perspective classique, un éphémérisme perpétuel dans l'interprétation des mythes, et jusque dans ses erreurs, nulle conséquence, bref, quelque chose d'autant plus irréparable que c'était fondé sur une autorité réputée intangible. C'est Rudolf von Roth, Renou pense au grand dictionnaire de Saint-Pétersbourg, qui ne va pas sans être critiqué par les maîtres que nous célébrons aujourd'hui, qui a le premier grand mérite d'affranchir donc la philologie védique de Sayana. L'originalité principale de Roth fut de se passer presque entièrement de l'autorité de Sayana. Assurément, il reconnaît à plusieurs reprises l'importance de cette ressource, quoiqu'il paraisse moins affirmatif dans la préface du dictionnaire que dans son livre antérieur de 9 ans sur le Veda. Là, renversant la position de Wilson, il soutient qu'un exégète européen consciencieux est beaucoup plus capable que Sayana de comprendre le texte. Et encore, l'attitude de Roth sur ce point est restée le pivot des études védiques. Et Sayana, que Burnouf avait déjà en défiance, si l'on croit à Max Müller, ne se releva jamais bien, de ce discrédit. Ni Grassmann, ni Bergegne, ni Oldenburg ne se soucient du commentaire hindou. Chez ceux-là même, comme Pichel, qui font retour à Sayana, un point essentiel de leur programme, on voit qu'en pratique, ils en rabattent beaucoup. Et Gellner, dans ses derniers travaux, abandonne bien des positions qu'on eût pu aisément tenir. Gellner, qui préparait à l'époque sa traduction parue posthume, en 1951, prendra le soin de consulter Sayana et de lui faire place dans les notes de sa traduction, donc de son travail, surtout pour les passages difficiles, sans pour y autant adhérer. Sa position, que l'on peut dire équilibrée, traduit pourtant une vue d'ensemble que Renou aurait sans doute jugée moins moderne que celle, par exemple, de Bergegne. Dans la religion védique, d'après les hymnes du Rig Veda, mythes et cultes vont de pair, et Bergegne est peut-être la figure la plus exaltée dans ce texte, pour avoir réussi à s'astreindre à une lecture rituelle du mythe. Par son antinaturalisme, observe Renou, Bergegne a amené la science védique à un progrès décisif, même si Renou s'empresse de reconnaître que c'est un travail qui est resté isolé. C'est Renou lui-même, nous semble-t-il, le premier à avoir prolongé l'enseignement de Bergegne. Étude des mots dans leur contexte formulaire, analyse des images et symboles, des stratégies rhétoriques, des figures de style. Renou partage beaucoup de la méthode philologique de Bergegne, y compris la référence « cum grano salis et toujours circonspect » à la glose de Sayana. Il y ajoute un goût pour l'investigation linguistique et pour l'art poétique de Rishi. Quant aux sources de la tradition indienne, il semble que seul le savoir grammatical, que Panini symbolise tout entier, soit digne de foi. Avait-il connaissance des commentaires sanscrits d'avant Sayana? Nous savons qu'il avait eu entre ses mains les deux éditions du commentaire de Skandasvamin, donc un commentateur du 7e siècle, paru en 1929 et 32, l'édition de Trivandrum, mais 1935 puis 1947. C'est surtout, on trouve un compte-rendu dans le journal asiatique en 1936 pour l'édition donc, du Skandasvami Bhasha par Kunan Raja. Mais il ne s'en servira pas. Pourtant, Skandasvamin inaugure l'histoire de l'exégèse védique classique, c'est-à-dire de type Bhasha, en fixant un modèle qui sera encore celui de Sayana 7 siècles plus tard. Il semble qu'un ancien Madhava, auteur d'un commentaire ainsi que d'une Anukramani mentionnée au passage par Skandasvamin, soit en vérité le premier auteur donc perdu, dans Rigveda Bhasha perdu. Après Skandasvamin et avant Sayana, on doit rappeler les noms d'Udgita, dont nous avons le commentaire d'une grande partie du dernier livre du Rigveda, dans la continuation, semble-t-il, de celui de Skandasvamin, d'un exégète nommé Narayana, et connu seulement indirectement, et puis de Venkatamadhava, ou Venkata simplement, dont l'exégèse complète de la Riksamhita date du début du XIIe siècle, donc deux siècles avant Sayana. Une édition critique de ces travaux a été publiée entre 63 et 66 en 8 volumes sous la supervision de Vishvabandhu à Pune. Parmi ces anciens maîtres de la philologie védique, je voudrais évoquer aujourd'hui de nouveau, parce que je me suis intéressée à lui par le passé, le premier, c'est-à-dire Skandasvamin, auquel j'ai déjà consacré donc quelques études, et le dernier précurseur de Sayana, Venkata, originaire, semble-t-il, du sud, et dont la Righarta Dipika couvre, je le répète, l'intégralité du Rigveda. Comme Renou l'avait fait pour les maîtres donc, des siècles récents, il est possible de retrouver les visions d'ensemble, leur théorie, disons, du texte, de ces maîtres anciens, dans les introductions de leurs propres commentaires. On découvre alors que Skandasvamin, que Sayana ne cite qu'une fois dans tous les textes de son commentaire, est le véritable interlocuteur, donc sept siècles plus tôt, de son travail. Leur rapport n'est pas celui d'une simple filiation. On trouve dans les introductions respectives la même référence à la Mimamsa et au Shabarabhasha notamment, à propos de la relation entre mantra et rite. Mais elle sert à Skandasvamin pour défendre la cause du sens, l'artatva, des strophes védiques. Car le rite, pour Skandasvamin, est au service du sens. Et c'est pourquoi, donc, ce sens doit être connu. Alors que Sayana, au contraire, s'en sert pour montrer combien le rite est le but, le sens ultime des strophes. On voit que l'importance accordée à l'application rituelle, c'est-à-dire le Vini Yoga, est devenue un enjeu de la philologie de Sayana, qui est à la fois l'expression d'un homme et de son école, le Yajurveda, imbu des philosophies védantiques. Pour Skandasvamin, au contraire, donc, la pertinence rituelle du texte, du texte des strophes, n'est pas l'affaire de l'exégète. C'est juste le sens des mots qu'il faut restituer. L'introduction montre que le but du travail de l'exégète est de fuir la perte de sens que la simple prononciation du mantra au moment du rite risque de produire. C'est parce que l'action rituelle mobilise le sens qu'elle diffère de la simple récitation par cœur d'une suite de syllabes c'est parce que l'action rituelle mobilise le sens et qu'elle diffère de la simple récitation par cœur d'une suite de syllabes que c'est la valeur sémantique donc, du mantra qu'il faut rechercher. J'ai mis simplement deux passages donc, de cette introduction du Skandasvamin Bhasha et je ferai de même pour Venkata qui a écrit son introduction en vers, hein, une trentaine de strophes et qui vient deux siècles, je le disais tout à l'heure, avant Sayana. Et là, ce sont d'autres valeurs des hymnes et des mantras qui sont mises en lumière. L'essence des strophes est toujours au cœur de ces réflexions. Mais la référence à la Mimamsa n'y figure plus. Venkata se présente plus comme un technicien que comme un théoricien. Quelles sont ses références? Dans le corps du texte, il mentionne les Bhashakara qui l'ont précédé, notamment c'est par lui que nous savons donc que Skandasvamin a peut-être écrit en coopération, en collaboration, un commentaire à trois voix, si j'ose dire, avec Narayana et Udgita. Et on discute encore de cette possibilité d'un travail à trois. Dans cette introduction, il mentionne surtout un maître unique. S'il y a un précurseur méconnu des études védiques et paninéennes, c'est bien Venkata. Bhagavan Paninir Vetti Vakya Vritti Samanjasam. Les bienheureux Panini connaît tous les modes du discours, toutes les vritti. Hein. Et les savoirs qu'il tire de son maître ne se limitent pas aux fonctions syntactiques, à la vibhakti, à la distinction des cas, mais se réfère, je vais dire, met l'accent sur les tons et la prosodie. Cela nous explique peut-être pourquoi Venkata est la même personne qui a fait le commentaire de la Samaveda Samhita. Donc l'introduction porte sur la manière de procéder dans la distinction des accents et comment ces accents affectent les sens. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je voulais signaler cette différence. Donc, il faut passer par l'analyse strictement linguistique et syntaxique, et ensuite reconnaître les phrases non accentuées à partir des propositions accentuées. Et ce faisant, Venkata montre là aussi sa connaissance voilà, la pertinence de la langue védique dans ces textes. Que reste-t-il de ces introductions et de ces déclarations programmatiques, de toutes ces disons, visions d'ensemble, lorsque nous entrons dans le corps des commentaires? D'un côté, nous avons l'impression que ces introductions deviennent des genres en soi, par elles-mêmes. Je voudrais toutefois vous proposer l'exercice, la comparaison de deux commentaires à une strophe qui donc est tirée d'un hymne à Varuna, et c'est l'hymne 2.28, et la strophe en question est donc la stance numéro 9, une stance célèbre cité par Friedrich Nietzsche dans l'introduction de son livre Aurore. Donc je vous informe que cette strophe est considérée encore aujourd'hui comme introuvable dans le corps du Rig Veda, mais que Charles Malamud déjà cite précisément cette référence dans son article la théologie de la dette dans le brahmanisme, qui a paru donc une première fois en 80 dans Purusharta, et puis republié dans Cuir le monde donc en 1989. Il glose sur cette stance, non seulement donc il la reconnaît, mais il m'a avoué qu'il n'était pas conscient du fait que jusqu'à présent on n'avait pas réussi à retrouver cette strophe qui dit il y a beaucoup d'aurores qui n'ont pas encore brillé, qui donc résonne probablement dans vos oreilles. Es gibt so viele Morgenröten, die noch nicht geleuchtet haben. Et cette strophe donc qui n'est pas tiré d'un hymne à l'aurore, à Ushas, comme on l'a pensé, mais donc bien s'agissant aussi pour Nietzsche de réfléchir sur les préjugés moraux d'un hymne à Varuna, donc le contexte aussi est bien justifié. Un hymne que, dans son ensemble, contient l'invocation au Dieu pour qu'il éloigne la faute, qui est comme une ceinture à défaire, pour qu'il éloigne la peur, pour qu'il éloigne l'étroitesse et angoisse, amhas, et toutes ces choses qui, dans les rêves, nous font peur. Par exemple, un ami qui nous dit des mots inquiétants, ou un voleur, ou un loup qui nous apparaissent en rêve. À tel point que la traduction de Jameson Brereton, reprenant l'indication de la Nukramani, repropose comme titre pour l'hymne « To Varuna, to remove bad dreams ». Mais le cœur de ce poème est dans la relation et les résonances entre deux notions clés de la pensée védique. Rita, l'ordre cosmique, la loi, l'ordre des choses, la vérité, et Rna, la faute, la dette aussi. Et donc je vous renvoie aux pages de Charles Malamud pour ce qui est de l'importance et de la primauté de cette notion originaire des dettes, hein, qui est, si j'ose dire, un mythe sans origine, un mythe constitutif de la pensée indienne. Lorsque l'on regarde les différentes traductions que vous avez donc sous les yeux, vous voyez que les traducteurs, encore aujourd'hui, hésitent entre faute et dette. Je lis celle de Renou, « Abolis donc les dettes contractées par moi », qui me semble très, très littérale. « Puissais-je ne pas payer pour la dette contractée par un autre, au roi ? Il y a en vérité maintes aurores qui n'ont pas encore lui. Assigne-nous, au Varuna, d'être vivant en elle. » Les commentateurs anciens insistent l'un sur la faute, si j'ose dire, et c'est le cas de Venkata, l'autre clairement sur la dette. Malheureusement, le temps s'est écoulé, mais je vais reprendre cela dans le texte. Donc, je m'achemine vers ma conclusion. Si Sayana regarde la dette comme un fardeau hérité des ancêtres, comme un poids qu'il faut alléger, dont il faut se délester, et rapproche clairement la dette, achemine clairement la dette vers la théorie du Karman, Venkata laisse retentir l'énigme qui est au cœur de l'hymne, la relation entre Rita et Rina, ordre cosmique et dette, suite ordonnée des nuits et des jours, et peur d'une nuit sans aurore. Le XXe siècle a apporté à la philologie védique de la finesse dans l'analyse. On a progressé dans la compréhension des relations entre poésie et rite, dont le mantra est la clé, la dimension performative des vers, mais aussi la valeur de l'hymne entier, sa dimension poétique. Notre jeune siècle apportera certainement de nouvelles contributions et découvertes à l'exégèse védique. Une des tâches qui nous attend dans cette immense aventure herméneutique, c'est de lire le Rig Veda, non pas sans Sayana. Il me semble avoir suffisamment montré que c'est un anachronisme et c'est impossible, mais avant Sayana. Merci. Merci.